Nous fêtions la Pentecôte ce week-end. La joie était grande hein, pour les catholiques en ce jour qui marquait aussi leur retour dans leurs églises où les célébrations étaient de nouveau autorisées. Alors à l'origine de cette décision, on s'en souvient, différentes associations qui ont déposé une requête en référé devant le Conseil d'État, d'où ces voix qui se sont élevées ici ou là pour dénoncer l'inertie de la Conférence des évêques de France. Ce matin, je vous propose de nous interroger justement sur les liens entre l'Église et le politique, et on voit ça avec vous, frère Olivier de Saint-Martin. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le supérieur de la province de Toulouse. Et pourquoi vous ? Car vous êtes particulièrement illustré en faveur de la reprise de la messe. J'en veux pour preuve, dès le 6 mai, le projet Preach plan de retour aux activités cultuelles habituelles. Il était déjà mis à disposition de tous. Frère Olivier, pourquoi était-ce si important ? Pourquoi vous vous êtes tant battu ?
Alors, d'abord, enfin, je crois qu'on n'est pas les seuls. Hein. Je dirais que les premiers à s'être battus, ce sont tous ces fidèles et tous ces prêtres qui ont célébré, on va dire, de manière virtuelle. Il y a eu tellement de...
Beaucoup d'ingéniosité, oui.
Ouais, non, mais et ça, je crois que c'est très important parce que ça montrait bien que la célébration communautaire, c'était pas quelque chose qu'on allait rajouter à ce qui existait. Non, elle est essentielle pour nous. C'est là que le ministre de l'Intérieur avait paru très désinvolte quand il avait dit, au fond, on peut très bien prier chez soi. Oui, d'accord, ouais. On peut très bien prier chez soi, mais dans l'exercice de la foi catholique, la célébration communautaire, elle est essentielle. C'est pas une option. On forme le corps du Christ. La célébration eucharistique, elle en est à la fois l'expression et la réalisation. Célébrer ensemble, c'est constitutif à notre identité catholique et chrétienne. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut commencer, je dirais par le commencement, à savoir toutes ces initiatives qui ont eu sur les réseaux sociaux, qui ont permis les liturgies familiales, qui ont permis de garder du lien entre nous. Et ça, je crois que ça a été très important. De la même manière, tous les prêtres qui ont continué à célébrer des obsèques, le sacrement des malades. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, parce que c'est une dimension essentielle à ce que nous sommes, nous, on a voulu, les dominicains, on n'est pas les seuls, hein, on a voulu, en fait, dès le mois d'avril, proposer quelque chose qui puisse montrer que la reprise sécurisée au point de vue sanitaire, elle était absolument possible. C'était la question, au fond, de dire... la liberté de l'exercice du culte, c'est une liberté qui est constitutionnellement reconnue, légalement reconnue, et qui est reconnue aussi par des conventions internationales. Donc comment est-ce que nous sommes capables d'être force de proposition ? Le projet Preach, hein, qui a été plusieurs versions ont été mises en ligne, vous parlez de celle du 6 mai, mais
il y en a eu avant.
En fait, était une proposition parmi d'autres.
Une proposition parmi d'autres, vous étiez quand même déjà illustré, on avait salué à l'époque votre réactivité, c'était le kit de la Semaine Sainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, les Dominicains, vous avez des moyens humains, autres, pour faire tout ça ?
Alors, je pense que quand on n'a pas les mêmes charges pastorales, par exemple, que des prêtres de paroisse, ou de fait, sur le couvent de Toulouse, enfin, la province de Toulouse, c'est 170 frères répartis dans 8 couvents, donc ça donne une vraie force de réflexion qui peut prendre du temps, hein, que les autres ne peuvent pas forcément faire de la même manière. Et ce que j'aimerais beaucoup dans ces histoires, c'est qu'en fait, on puisse relever une chance de complémentarité dans l'Église. Mais j'imagine qu'on y reviendra. Et sur ce projet, effectivement, c'est un ami qui est venu me voir, qui a été chargé de la reprise de l'activité économique dans son entreprise et qui m'a dit on pourrait peut-être travailler ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour les célébrations de messe. Et on s'est retrouvés en faisant des appels à une bonne quinzaine avec des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, architectes, etc. Et on a essayé de prendre, alors ça a été roboratif, hein, 54 pages, parce que au mois d'avril, on ne sait pas les options que va prendre le gouvernement. Au mois d'avril, on sait aussi quand même qu'une paroisse rurale, une paroisse urbaine, c'est pas la même réalité. Et donc on a essayé de prendre, pour être force de proposition, on a essayé de prendre plein d'options, les options les plus sécuritaires possibles au point de vue sanitaire, mais aussi des options très différentes pour une paroisse de ville, une paroisse de campagne. Et que chacun puisse s'y retrouver, c'était aussi l'idée de montrer à des gens qui ne nous connaissent pas forcément, voire qui nous connaissent rarement, qui ne savent pas l'amplitude de toutes les célébrations liturgiques qui ont lieu dans une église. C'est pas la même chose de célébrer un baptême, de célébrer les obsèques, de célébrer l'Eucharistie, de célébrer les confirmations, le sacrement des malades. Donc nous, nous sommes concentrés sur l'Eucharistie. C'était de montrer que nous pouvions embrasser l'ensemble des liturgies avec différentes propositions, différentes options, et ainsi montrer que nous étions des gens responsables, des gens à peu près sérieux, crédibles, et qu'on pouvait nous faire confiance.
Et puis, vous avez dit quelque chose d'intéressant, on y reviendra aussi, hein, sur montrer à des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Ça veut dire quoi? Alors, en creux, on comprend que les autorités ne nous connaissent pas forcément. Hein. Avant ça, tout de même, ça a repris. Les messes, pour l'essentiel, ont repris ce week-end. À Toulouse, l'archevêque a célébré des confirmations de 6 jeunes adultes. C'était à l'église Saint-François de Paul des Minimes. À nos confrères de la Croix, il a confié évidemment se réjouir, hein, de la reprise du culte, en précisant que ce n'était pas le grand rush, mais c'est en mieux, dit-il, il était vital de reprendre les cérémonies, mais il faut y aller doucement et avec prudence. Les fidèles se sont bien emparés de vos recommandations, frère Olivier de Saint-Martin?
Bah écoutez, enfin, pour l'expérience que j'ai, quelques retours, oui. Alors, nous avons pu commencer à célébrer déjà il y a 8 jours. 60% des personnes sont revenues le premier dimanche. Hier, c'était beaucoup plus, avant-hier, il y avait beaucoup plus de monde pour la Pentecôte. Au départ, on a multiplié, et puis là aussi, on a multiplié les messes. Ça demande des efforts de tout le monde, des recommandations au point de vue sanitaire. Ça réclame aussi de pouvoir ne pas aller à la messe à laquelle on aimerait aller, à l'horaire auquel on est habitué, au type de liturgie. On apporte des corrections petit à petit, mais la configuration, oui, elle demande des bénévoles, elle demande de l'investissement des uns et des autres, mais ça se passe globalement bien. On avait la chance aussi sur la province, et en particulier à Toulouse, d'avoir anticipé, donc on est capable de proposer des masques à ceux qui l'auraient oublié, on a à peu près tout ce qu'il faut. Il y a toujours des améliorations à apporter. Mais je pense que le plus grand point d'attention, ce serait de se dire, voilà, nous, on a fait une inscription, par exemple, à l'avance pour ne pas renvoyer les gens qui, si jamais il n'y a plus de place, mais c'est de se dire, tiens, qui est-ce qui ne vient pas? Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Est-ce que c'est le climat anxiogène qui les garde chez eux? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas Internet? Donc un très gros point d'attention, non pas pour se réjouir de ce qui fonctionne bien, mais de se dire, tiens, où sont ceux qui ne viennent pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Donc surtout ne pas être en cercle fermé, mais vraiment attentif. Et attentif aussi parce que je pense qu'on a de plus en plus de personnes qui commencent à être touchées et qui sont déjà touchées par la pauvreté et par la crise qui arrive. Comment est-ce qu'on est capable d'être force de proposition? Je connais une paroisse, c'est pas chez nous, dans le diocèse, qui a deux fidèles qui sont psychologues et qui déjà sont force de proposition en disant, voilà, si vous avez des difficultés à vivre ce qui s'est passé, si vous avez besoin d'en parler, sachez qu'il y a des paroissiens qui sont professionnels et qui sont là pour vous écouter. Et là, je crois qu'on touchera vraiment...
Venons-en, merci, oui, effectivement, pour ces précisions, comment rejoindre ces personnes. Venons-en au fait, frère Olivier de Saint-Martin, je vais vous lire une phrase, un mot de Jean-Marie Guénois dans le Figaro, c'était le 19 mai, quand le fondement juridique même de la liberté de l'exercice du culte en France est en cause, l'institution Église ne peut pas rester les bras ballants. Alors, elle n'est pas restée les bras ballants, vous l'avez dit, beaucoup d'ingéniosité, mais... pas de saisine du Conseil d'État. Pour quelles raisons les évêques, selon vous, ont-ils été trop timides?
Alors, je trouve d'abord qu'on a une faculté à polémiquer entre nous qui est assez sidérante. Enfin, pardon.
Ça, c'est les journalistes, toujours. Hein.
Oui, non, mais c'est pas que les journalistes. C'est-à-dire que je me dis, tiens, chacun a fait le job comme il pouvait, comme il l'entendait. Et finalement, moi, je me dis, ça a été assez complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont dialogué, il y a ceux qui ont fait du pratique, il y a ceux qui ont saisi le Conseil d'État. On pourrait se dire, finalement, il y a une certaine complémentarité entre toutes ces actions et on s'en réjouit. Et on a une faculté, en fait, à distribuer des bons et des mauvais points. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Moi non plus, hein, je ne l'ai pas saisi le Conseil d'État, donc je me sens assez libre. Quand vous discutez avec quelqu'un, spontanément, vous ne l'emmenez pas en même temps au tribunal. Bon. Et puis, je pense que dans l'Église, et je vais essayer de répondre hein, quand même précisément, dans l'Église, je pense que quelque part, ben, on se souvient, avant d'aller au tribunal, dit Jésus, eh bien, mets-toi d'accord avec ton frère. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a essayé de faire dans cet ordre-là. Mmh. Après, là où je rejoins Jean-Marie Guénois, c'est effectivement de se dire, aller au Conseil d'État, ce n'est pas attaquer judiciairement celui qui est en face de nous, c'est demander de vérifier si une loi est conforme à ce qu'elle doit être, si elle est conforme au droit. Alors, ben, moi, je ne regrette pas du tout que le Conseil d'État ait été saisi. J'en rends grâce parce que le Conseil d'État a pu justement dire que la loi n'était pas conforme à la Constitution et qu'elle n'était pas conforme au libre exercice du culte qui a une dimension communautaire. Alors, oui, les évêques auraient pu saisir le Conseil d'État, moi aussi. Je sais que moi je ne l'ai pas fait parce que c'est pas mon réflexe. Ce réflexe juridique n'est pas le mien. Moi j'ai écrit au ministre de l'Intérieur le 28 avril pour lui faire part de ma surprise et de mes interrogations suite au discours du Premier ministre. Je n'ai pas eu l'idée du recours au Conseil d'État. Peut-être que c'est des réflexes qu'il est bon de prendre, c'est technique. Sur tous les référés qui ont été déposés par un paquet d'associations, il y en a plusieurs qui ont été rejetés par le Conseil d'État. Donc c'est technique. Il faut que nous ayons des gens qui nous aident à saisir aussi ce que c'est que cette technique du Conseil d'État. Et encore une fois, que ce n'est pas une attaque judiciaire, c'est une demande de vérification de conformité de la loi.
Qu'est-ce que cette histoire dit, frère Olivier de Saint-Martin, de la connaissance que le politique a de la religion catholique? Vous aviez l'air tout à l'heure tout de même de dire qu'il ne nous connaissait pas beaucoup. Un évêque, l'évêque de Nanterre, parlait d'un tropisme anti-catholique.
Alors, il y a sans doute des gens qui ne sont pas hyper favorables à la foi catholique au ministère dans les sphères d'autorité, chez les fonctionnaires, comme dans le reste de la société. Moi, je dirais que peut-être la plus grande chose, c'est que la culture chrétienne, elle a disparu. Les politiques, les gens qui s'occupent aussi de nous, comme nos contemporains, ne savent pas ce que c'est que la foi catholique. Ces rites, je ne suis pas sûr qu'ils en connaissent le sens, qu'ils en connaissent le déroulé dans l'ensemble des rites. Or, nous partons très souvent du postulat que les gens qui sont en face de nous, nous connaissent. Non, la culture chrétienne, elle n'existe plus. Et les gens qui sont en face de nous, en général, ne nous connaissent pas, mais même à l'intérieur de l'Église. Alors, je suis très heureux, le ministre de l'Intérieur a envoyé un tweet pour fêter aux chrétiens...
Et oui, bonne Pentecôte.
Bonne fête de Pentecôte. Donc il a eu l'oral de rattrapage. non, mais je pense que c'est bien, il y a quelqu'un qui le dit, mais c'est bien de le faire.
Ça implique une grande vigilance de notre part et de pédagogie peut-être.
Ah oui, il faut qu'on soit vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on parte du postulat que les gens nous connaissent. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on parte du postulat que pour les gens, la religion, qui sont en face de nous, mais aussi pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, la religion, notre foi, est devenue un système de valeurs, une philosophie de vie. C'est beaucoup plus que ça. Pour nous, nous sommes destinés, notre visée, c'est la vie éternelle. Notre foi regarde la vie éternelle. Et donc là, si on comprend ça, ben, on va voir qu'il y a aussi une vigilance à avoir entre ce qui relève du politique et du gouvernement, la sphère légitime des autorités publiques, mais aussi quelque chose qui relève intrinsèquement de l'Église, la sphère politique ne doit pas légiférer sur la manière, son pouvoir de légiférer ne s'étend pas à la manière d'exercer le culte. Et ça, je crois que c'est très important pour nous d'avoir cette vigilance. Ils ne savent pas ce que c'est, et spontanément, bah, comme ils ne savent pas, bah, ils vont penser que, bah, oui, ça relève de l'État de dire que je peux ou non donner la communion à des malades. Bah non, ça relève du gouvernement de l'Église.
Merci beaucoup, frère Olivier de Saint-Martin. Malheureusement, nous sommes déjà obligés de nous quitter. Vous êtes le supérieur de la province des Dominicains de Toulouse, également l'auteur d'un livre est sorti le 15 mai, Libéré, relevé, comment comprendre comment Dieu nous sauve. C'est aux éditions MAM. Un grand merci à vous de ces explications et éclairages. À bientôt.
Alors, merci Isabelle. Juste pour terminer, vraiment que l'Esprit Saint que nous venons de fêter soit celui qui nous unisse, qui nous fasse prendre conscience de la complémentarité des membres du corps et que nous soyons témoins de l'unité, justement, de l'action de l'Esprit.
Merci à vous.